Revue de presse de l'April, semaine 21, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors on est au salon solutions libres et open source, donc c'est pour ça qu'il y a du bruit derrière nous.
Et oui, ça nous change, et outre le fait que le nom a été bien pensé, maintenant ils ont inclus libre en plus d'open source, ce qui est pas si mal.
Donc premier article, AgoraVox, tous les emplois n'ont pas la même valeur. Un article de qui d'ailleurs? De Mathius.
Donc un article assez conséquent et super intéressant, n'est-ce pas?
Alors d'une part, on sent qu'il n'a pas l'habitude d'écrire, hein. C'est AgoraVox, hein, c'est un truc où les gens viennent s'exprimer. Le style est un peu difficile, ça parle d'économie. Et en faisant cette distinction qui est juste, hein, le fond, il est juste, hein, de dire qu'il faut faire une différence entre économie réelle et donc on est dans la matière, dans qu'est-ce qu'on fait pour manger, se vêtir, se loger, et l'économie de service où on est un peu dans le flou. Et il va parler de logiciels libres et de logiciels propriétaires en disant que dans le logiciel propriétaire, on va essayer de vendre un maximum de services, c'est-à-dire délayer autant qu'on peut et faire travailler des ingénieurs un max pour avoir finalement un résultat assez faible, et que dans le logiciel libre, au contraire, on va mutualiser les développements et du coup être plus efficace. Et que selon lui, on doit, enfin j'interprète quand même beaucoup, parce que des moments il fait quand même des fixettes sur des trucs assez précis, où on comprend pas trop pourquoi. Voilà que du coup il faut avoir une démarche où on va essayer d'être plus dans l'économie réelle.
Moi ça me paraît un bon article à troll, notamment il compare quasiment le propriétaire et l'esclavagisme, ce qui me paraît assez conséquent et audacieux.
Voilà, ça tranche quand même assez violemment, ça va pas trop dans le détail, et on sent également qu'il manque de culture économique, hein, il va sur ces sujets-là. Et voilà, il conclut sur le fait qu'il faut plus de paysans, enfin, donc c'est un petit peu bizarre. Donc bon, on peut se passer de la lecture de cet article à bon sens.
Ah non, moi je suis pas d'accord, je pense qu'il faut y aller, mais il faut y aller avec des armes
intellectuelles. Tu veux troller, c'est pour ça.
Et effectivement, c'est toujours marrant de voir des opinions aussi tranchées.
Les Échos, le biais de l'internet-centrisme, un article de Hubert Guillot.
Donc encore un article plutôt intello, hein.
Oui, alors bah c'est un sujet qui revient de temps en temps, et là on revient sur cette question de le monde est-il changé par Internet ? Et avec un article, on sent qu'il y a un petit fond de mépris pour Internet, de ce truc qui nous énerve. Il y a un petit fond comme ça de...
Un peu de recul, mais en même temps, de toute façon, il le présente. Hein, c'est aussi basé sur un livre, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des chercheurs, c'est très, très universitaire. Et effectivement, ils prennent du recul. Ils considèrent qu'Internet, c'est une délusion. C'est-à-dire, on se désillusionne. Les gens ont cru qu'Internet était la solution à tout et on en revient.
Le propos est pas faux et il est argumenté. Donc, c'est en ça que cet article est vraiment intéressant. Est plus intéressant que le précédent. Après ça, il faut passer outre le côté « je veux casser d'Internet » parce que finalement, on a l'impression qu'ils veulent prendre un peu la position inverse de celle qui dénonce. Et du coup, ça amène à réfléchir et ça, c'est bien.
Moi, j'aurais une petite opinion à proposer. C'est pas que c'est Internet qui change le monde, c'est le monde qui se change lui-même, et Internet est simplement une des productions parmi tant d'autres. Et effectivement, c'est une production qui est ouverte, qui est démocratique, plate. Il y a beaucoup moins de hiérarchie. On en a déjà parlé. On est en train de changer le monde.
Alors, il y a des grands débats là-dessus, hein, dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. C'est est-ce que un mode de communication peut changer la société? L'article ne répond pas à ça. En tout cas, il invite à être prudent sur les gens qui veulent diffuser les principes, notamment du libre, pour tout et n'importe quoi. On a une notion qui est très à la mode actuellement, qui est intéressante, hein, qui est la notion de bien commun. Et c'est vrai, quand on va fouiller dans les gens qui ont parlé de bien commun, notamment chez Linor Ostrom, il y a une différence entre bien commun et bien public. Et on veut faire rentrer, par exemple, le logiciel libre dans les biens communs. Mais selon les définitions d'Linor Ostrom, le logiciel libre est un bien public, parce que c'est un bien qui n'est pas un bien rare, et ça fait toute la différence. Et donc, voilà, cet article, il est intéressant pour ça. Il faut savoir rester raisonnable et mesurer, et pas faire des gros agrégats et y aller à la hache, quoi.
Réseautelecom.net, solutions libres et open source 2013, un article de la rédaction.
Donc on parle de l'endroit où on est en ce moment même, hein. Pas grand-chose de spécial à dire, si ce n'est que c'est un article qui présente le lieu, qui présente l'actualité, les conférences et les thèmes de l'année. Donc je sais pas si on peut en parler vite.
C'est un salon sympa et qui a cette particularité d'avoir à la fois des professionnels et un village associatif, ce qui est assez rare, même plutôt rare, et on l'aime bien pour ça. Du coup, il y a de l'ambiance et donc voilà.
Oui, je rajouterais, il y a quasiment 60 associations qui sont sur le lieu. La mixité entreprise-association est effectivement à noter. Ça fait une ambiance rare et originale, donc on apprécie.
Tahiti Info, Lolita organise une install party à la Maison de la Culture, un article de la rédaction.
Donc c'est un nouveau site, et puis c'est une petite actualité locale, parce que ça fait plaisir de voir justement des gens qui se prennent en main et qui proposent, venez les voir, allez les rencontrer, il y a des dates, il y a des lieux. Et quand vous en partirez plus riche, et peut-être même plus riche d'un peu de liberté, ouais. Puisqu'il se propose d'installer sur votre ordinateur, celui que vous emmènerez avec vous, une distribution libre de votre choix.
Et oui, donc c'est une install party d'Ingul, de Tahiti, et on aime bien relayer ce qui se fait à droite, à gauche. Et voilà, ça bouge de partout, c'est très bien.
01Net Pro, faut-il favoriser le logiciel libre à l'école? Un article de Xavier Bizel.
Donc ça fait partie de la grosse actualité du moment, on en a déjà parlé, on continuera à en parler, j'en doute pas, parce que, et oui, dans la loi, il y a des gros changements, et là, on a le plaisir d'introduire pour la première fois le terme logiciel libre dans la loi française.
Oui, alors c'est ce qu'on avait évoqué la semaine dernière avec ce qui se discute au Sénat, on rappelle, hein, c'est un projet de loi, rien n'est voté encore, donc on espère que ça va rester en l'état. Et une des commissions du Sénat avait proposé d'intégrer du logiciel libre prioritairement à l'école. Et donc ça, ce serait très très bien. Et l'article fait état de réactions négatives de la part de Syntec et d'un autre organisme.
Et qui élève d'elle.
Donc l'April a réagi là-dessus, notamment, puisqu'il y a deux affirmations de la part de ces structures. Une première qui était de dire que mettre prioritairement du logiciel libre, c'était anticoncurrentiel. Or, le Conseil d'État, on en avait parlé dans la revue de presse il y a un petit moment, le Conseil d'État a dit que c'était tout à fait légal, puisque n'importe quelle entreprise peut s'aligner sur du logiciel libre,
et
contrairement
oui, y a pas
à du logiciel propriétaire,
y a
puisque
pas de
le code est ouvert.
Oui.
Et donc, ça n'est pas anticoncurrentiel. Et il est également, là j'ai oublié les détails, fait question d'un truc où il y avait une réunion et où certaines autorités administratives auraient pris un choix, etc. Et en l'occurrence, ils n'étaient pas présents à cette réunion-là. Donc deux positions contre ce truc-là que l'April a cassé en disant que c'était de la mauvaise foi, au moins dans un des deux cas.
C'est un peu rageant parce que voilà, ils en appellent à la réalité économique, au fait de favoriser les entreprises françaises. Et non, nous on le constate tous les jours, c'est pas les entreprises françaises qui profitent majoritairement du propriétaire, ce sont des entreprises américaines, hein, tout simplement. Microsoft, Oracle parmi les premiers. Donc non, il faut au contraire se battre pour favoriser les industries du service, pour favoriser des gens qui développent localement, des sociétés d'intégration. Il y a l'Inagora qui intervient justement sur ce sujet et qui se revendique de notre côté, qui revendique, voilà, il faut favoriser dans l'éducation le logiciel libre et les ressources libres parce que ça va nous aider économiquement et puis ça va aussi aider l'éducation. Ça nous coûtera peut-être un peu moins cher.
TechPost. Why is the International Space Station switching from Windows to GNU Linux? Donc, qui est un article de la rédaction.
Donc, on a déjà abordé le sujet. On en reparle parce que c'est quand même intéressant. Et puis, c'est fort. La station spatiale, donc, qui est au-dessus de nos têtes, bien, elle tourne maintenant sur du logiciel libre uniquement. Alors qu'il y a encore peu, c'était avec du Windows, Windows XP, je crois.
Oui, alors, c'est sur les ordinateurs que les astronautes, les spationautes utilisent pour travailler. Donc, c'est pas les systèmes de la station elle-même. Eux n'étaient pas sous Windows.
Oui, il faudrait pas être idiot à ce point-là.
Et ils ont eu, donc, avec ces PC, PC de boulot, ils ont eu les problèmes de virus. Donc,
et oui,
incroyable.
Il semblerait qu'il y a un astronaute, un cosmonaute russe qui s'est docké là-bas avec son ordinateur, un ordinateur portable. Il a embarqué avec lui un virus. C'est rageant quand on pense à toutes les conséquences que ça pourrait avoir.
Et oui, le temps est cher. Hein, je veux dire, quand on connaît le prix du kilo envoyé dans l'espace et la somme de moyens qu'il faut pour envoyer des gens là-bas et tout le boulot qu'ils ont à faire, on n'a pas de temps à perdre à résoudre des problèmes de virus. Et si en plus ça, on doit perdre des données sur des expériences, des trucs comme ça, c'est juste une catastrophe terrible.
Donc là, on est content. Ils ont choisi la Debian 6. Donc Debian, c'est un peu la distribution parente de Ubuntu, qui est un peu plus connue pour le coup dans le grand public. Moi, j'applaudis parce que c'est quelque chose de très stable et solide.
Purement libre. Et c'est une version assez ancienne, mais
relativement
très solide, très carré.
Donc tout ça, ça valide la technicité et la grande qualité du logiciel libre. Ça fait plaisir. Donc c'est bien pour ça qu'on le met en avant, hein, et on n'hésitera pas à en reparler, j'en doute pas. Je rappellerai que les gros ordinateurs du monde entier tournent sur du logiciel libre parce que c'est plus efficace aussi. Donc vraiment, pour chez vous, n'hésitez pas, il faut que vous installiez une Ubuntu, une Debian, c'est pas si mal.
Très bien, et bien, c'est fini pour cette revue de presse.
À la semaine prochaine.
Au revoir tout le monde et à bientôt.